certains conduisent. Conçu pour l'aventure et doté d'un espace infini, le tout nouveau Opel Frontera est le super-héros de votre quotidien. Découvrez le nouveau Opel Frontera à partir de 19 990 euros, prime de recyclage déduite, durant les Opel Days du 10 au 14 juin. Plus d'infos sur opel.be ou dans votre point de vente Opel. Bonsoir le club, Maxime Binet.
Bonsoir le club, soyez les bienvenus dans votre émission de référence sur l'actualité politique. Au sommaire du club, Greta Thunberg est au centre de plusieurs éditos. Ce matin, la personnalité de l'activiste écologiste irrite une partie de la population. Bertrand Haine, sur la première, parle de la caricature et se pose des questions sur la finalité de son action. Nous en débattrons dans quelques instants. Concernant la punchline du jour, la justice va continuer à faire son travail en toute indépendance et sans aucune pression. Ce qui frappe ici, c'est la disproportion. La famille de la victime doit être soutenue. Nous reviendrons sur cette conférence de presse donnée par le procureur du roi concernant l'affaire du petit Fabian. Enfin, l'entrisme des frères musulmans. La Libre Belgique y consacre plusieurs analyses ce matin. Cette confrérie est moins influente que par le passé en Europe. Son objectif n'est pas d'installer un État islamique qui est frère musulman. Alors, entre relativisme et inquiétude excessive, nous tenterons de répondre à cette question en fin d'émission. Plus jamais vous ne verrez la politique comme avant. Bienvenue à notre trio de chroniqueurs ce soir. Bonsoir Dimitrios Kagiola.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant spécialisé dans l'actualité politique. Merci d'être régulièrement dans le club à vos côtés. Bonsoir Dylan Nomius.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de Libre Belgique, la Libre qui est revenue ce matin notamment sur l'entrisme et les contacts qu'il pourrait y avoir avec la sphère politique dans votre journal et face à vous. Bonsoir Nicolas de Decker. Vous êtes journaliste spécialisé en politique pour le VIF. Merci d'être dans le club. On débute avec les éditos, la une. Persona non Greta en Israël. C'est le titre de la chronique de Bertrand Haine ce matin sur la première. Greta Thunberg est devenue une caricature d'elle-même et sans doute de manière tout à fait volontaire. D'ailleurs, explique notre confrère, on peut faire des similitudes avec son ennemi juré, à savoir Donald Trump. Greta Thunberg se sert du bashing organisé contre elle pour accroître sa visibilité. Ainsi, les services de communication israéliens ont décidé de renommer la flottille pour Gaza croisière du selfie pour tenter de et de dénigrer son action. La limite de l'exercice, c'est qu'en jouant ce jeu de la caricature, Greta Thunberg a certes donné beaucoup de visibilité à sa cause, mais comme elle l'a fait jadis pour le climat, mais cette fois, il n'est pas certain qu'elle ait converti grand monde. Voilà pour une partie de cette chronique de la première avec Bertrand Haine. Question pour débuter ce débat, Dimitrios Kagiola. Vous, comment voyez-vous l'action de Greta Thunberg ?
Je le vois comme souvent, Greta Thunberg, comme un coup d'éclat médiatique. Et je pense qu'à ce titre, elle a réussi son pari. Je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je veux dire, si on met dans la balance le retentissement de son expédition, hein, de la croisière du selfie, et avec les objectifs réels, c'est-à-dire les cargaisons de vivres qui étaient assez faibles.
Une sensibilisation aussi. Hein.
Donc on se rendait bien compte que ce n'était pas le but ultime et le but final, ce n'était pas d'aller amener des vivres. Donc le but, c'était effectivement de sensibiliser, de démontrer qu'il y avait un blocus, et finalement de montrer que l'État d'Israël n'est pas capable d'entendre, d'ouvrir les portes. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Pour le reste, il y a quand même pas mal de choses où effectivement elle est la caricature de sa propre caricature. Je veux dire, ses propos accusant Israël de l'avoir kidnappé, je trouve que là, bon, c'est un peu fort. Je veux dire, à un moment donné, elle est sur des eaux qui seraient des eaux territoriales d'Israël, en tout cas sous contrôle d'Israël. Elle est persona non grata, comme l'a très bien titré Bertrand Haine. On la ramène à Stockholm en avion, ce qui doit être quand même le camouflet ultime pour Greta Thunberg. Je rappelle que généralement elle se déplace par des moyens durables comme le voilier ou les vélos ou le train. Et donc là, je pense qu'elle a réussi son coup. Elle a réussi son coup et je pense que des personnages plus politisés qui étaient avec elle, en tout cas qui participaient à cette aventure, ont aussi réussi leur coup. Donc la députée de la France Insoumise qui est toujours en Israël et d'après les informations de la presse britannique, le grand organisateur de cette croisière serait en tout cas quelqu'un qui est très influent en Grande-Bretagne comme relais du Hamas. Donc je me demande moi si elle avait conscience de qui finançait la flottille, de qui tirait les ficelles.
Nicolas Decker. Alors, est-ce une caricature positive pour faire référence à la chronique de Bertrand Hen ce matin?
Je félicite Bertrand pour son superbe jeu de mots, bravo à lui. Mais sur le fond de cette affaire, sur laquelle je vous prépare tous les amis, j'ai peu de choses à dire. Il y a quelque chose quand même, moi, qui me surprend, c'est la célébrité de Greta Thunberg et la haine qu'elle suscite. Qu'a-t-elle fait pour être aussi célèbre et qu'a-t-elle fait de mal pour être aussi détestée, raillée, moquée? Pour moi, ça reste un mystère. Le fait que nous en parlions fait partie du mystère. On a affaire à quoi? On a affaire à, je crois, 12 personnes sur un voilier. Très bien, aucune n'est belge, aucune n'est belge francophone. Il y a deux journalistes quand même, c'est important pour nous qui sommes à cette table de dire que ça ne va pas non plus d'arrêter les journalistes. C'est juste la petite parenthèse que je m'autorise à faire en tant que connaisseur ou concerné. Mais sur le fond, Greta Thunberg, c'est une Suédoise qui est partie d'Italie, je crois, ou je crois qu'ils sont partis d'Italie, qui est rapatriée, qui ne peut pas entrer à Gaza, qui est a raisonné par les Israéliens et qui est renvoyé à Paris. Mais en quoi est-ce que ça nous concerne, nous? Pourquoi est-ce que ça fait des éditoriaux dans la presse?
On a parlé régulièrement de la situation à Gaza dans le cours de cette émission.
Absolument, Dimitrio, voilà. Il y a 10 millions de raisons de parler
celui-là
de la situation à Gaza.
Dont on parle le plus depuis 3 jours.
Plutôt que de celle-là, et c'est ça qui est véritablement surprenant.
C'est un coup médiatique.
En quoi est-ce qu'on parle? Mais pourquoi est-ce qu'on parle autant de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu deux, aujourd'hui, Maxime, deux éditoriaux contre Greta Thunberg?
Pas vraiment contre, c'était vraiment en nuance.
L'éditorial
négatif quand même.
C'est quand même un peu déprimant. Appréciatif, mais le jeu de mots était très bien, je le rappelle. Mais qu'a-t-elle fait et qu'a-t-elle fait de mal pour mériter autant cela? Et sur le coup médiatique, justement, moi je ne pense pas que ce soit réussi, puisque, et là je rejoins Bertrand, pas seulement sur son brillant jeu de mots, mais en réalité, elle n'a convaincu que les convaincus. Il n'y a pas quelqu'un qui, lisant l'éditorial de Isolde van den Ende dans la presse flamande ou écoutant la première ce matin, se dira « mais finalement, je trouvais qu'elle ne m'intéressait pas, cette femme, finalement, elle m'intéresse. » Ou « je trouvais que cette initiative de Flotille de la Liberté était désagréable. » Mais maintenant que j'ai écouté les recensions médiatiques de cette aventure,
non mais on peut quand même je trouve se poser légitimement la question si ce type de communication, parce que ça a été très aussi diffusé sur les réseaux
sociaux,
est-ce
que c'est efficace, oui ou non,
est-ce que
je pense
ce type
que non.
De médiation, de communication aussi, d'action, eh bien finalement ça ne sert pas à sensibiliser une partie, par exemple de la jeunesse qui pourrait suivre depuis
peut-être.
2019.
Mais Maxime, je vois surtout que ça énerve beaucoup tout le camp du politiquement correct.
Les années représentent de moins en moins la jeunesse. Mais plus que l'action, on est vraiment dans la récupération ici, dans la récupération d'une personnalité. Moi, ce qui me dérange, c'est une personnalité autistique, c'est-à-dire aussi avec des limites, avec des excès, avec des choses, on ne sait pas toujours si elle est consciente de ce qu'elle fait, justement. Est-ce qu'elle est consciente de la récupération dont elle fait l'objet ici par un frère musulman, affiché comme tel? C'est une vraie question qu'on doit pouvoir se poser. Maintenant qu'elle soit devenue la caricature d'elle-même, oui, à partir du moment où elle sort de ses combats initiaux et qu'elle mène des combats contre Trump, on l'a pu le voir, et on n'est pas les premiers à être défenseurs de Trump ici, sur une cause qui est louable, évidemment, mais qu'elle va porter de manière totalement ridicule, parce qu'en effet, c'est pas avec un petit bateau qu'ils vont pouvoir entrer dans Gaza et sauver la population qui est là-bas. Donc je trouve que cette personnalité commence vraiment à toucher les limites de ce qu'elle peut faire comme influence.
Nicolas Decker, est-ce qu'on peut dire finalement qu'elle s'écarte de son combat initial, à savoir le climat? Elle a été très médiatisée en 2018-2019 avec les marches pour le climat, mais je rappelle aussi que dans la mouvance écologie politique, on se réfère aussi les penseurs de cette écologie-là à mai 68, à la défense des opprimés, à la volonté aussi
Maxime,
l'antimilitarisme.
Je ne suis pas suffisamment cortiqué que pour pouvoir déterminer l'articulation entre l'écologie politique et la libération ou la défense ou la résistance ou le terrorisme, j'en sais rien, au Proche-Orient. Ce que je peux dire, Maxime, c'est qu'elle a le droit de faire ça. Elle n'est pas une personne qui est dépourvue ou qui a été dessaisie de sa liberté d'expression. Elle a le droit de partir en bateau, elle a le droit de se filmer, elle a le droit de dire qu'elle pense que Donald Trump n'est pas quelqu'un de gentil ou qu'il est quelqu'un de gentil aussi. Elle en a le droit. La question c'est pourquoi notre société du spectacle lui a donné ce rôle de grande méchante, grand danger pour la population d'une personne qui rend en fait les gens mais hystérique. Parce que je vois des gens sur les réseaux sociaux, j'entends des gens quand je vais dans ma famille dire oh, Greta Thunberg, pour eux, leur présenter une figure de diable et leur présenter Greta Thunberg, c'est à peu près la même chose. Et il y a une question, allez-y. Je sais que vous m'avez engagé ici pour des réponses, mais je vais vous poser une question, et je la répète, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que
il faut toujours des
plein de gens, surtout conservateurs, s'énervent?
Donc, ça a toujours existé à tout temps.
Ouais, parce qu'elle endosse tous les combats idéologiques de gauche.
Justement, il y a peut-être une phrase...
éléphant plutôt que le comment, et là, alors, on n'est plus dans la com.
Je vois qu'il y a une division au plateau, mais par rapport à cet édito sur la première, il y a peut-être une phrase qui résume très bien ce à quoi nous discutons. Si vous êtes de droite, vous devez la détester. Si vous êtes de gauche, vous devez la porter au nu. Qu'est-ce que vous en pensez, Dimitrios Kagiola?
Mais là, c'est aussi caricatural que ce que fait Greta Thunberg, parce que
c'est un très beau jeu de mots, hein, personnel de Greta.
Oui, mais ça, je l'ai dit. Mais ici, c'est caricatural, puisqu'il est évident que je pense qu'elle peut agacer beaucoup de gens aussi à gauche. Et je pense qu'elle peut séduire des gens qui ont plutôt une pensée libérale, écologique, entre guillemets, de droite, parce que ça doit exister. Donc moi je pense que Greta Thunberg, effectivement, elle se voit comme une sorte de passionnariat des causes altermondialistes, les ONG, héritières de mai 68, et effectivement, comme aujourd'hui, il y a assez peu de vent dans les voiles de la cause climatique. Elle a trouvé d'autres terrains de jeu. Personne ne peut lui enlever le droit de se mobiliser pour Gaza. Et je pense que c'est bien la dernière chose qu'on peut lui reprocher, parce que je pense qu'il va de soi qu'il faut se mobiliser sur Gaza. Hein, on fait une parenthèse hors Greta Thunberg, parce que la situation est dramatique, horrible. On peut y mettre tous les mots qu'on veut, y compris peut-être celui de génocide qui fait débat. Mais donc, elle a le droit. Et je pense que c'est sa vie. Dorian a rappelé ses caractéristiques, hein, médicales. Voilà, je pense qu'elle est là-dedans, dans ses combats, dans ses causes. Je pense que pour elle, c'est une raison d'exister. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière elle qui la manipulent. Ça a été le cas lors du combat climatique. Bon, le combat anti-Trump, je pense qu'il est totalement anecdotique. Mais on voit ici qu'elle est manipulée ou en tout cas poussée par des gens que j'estime être peu fréquentables, comme ce responsable du Hamas et qui serait frère musulman, même si on parlera des frères musulmans dans la troisième partie, et effectivement avec des gens comme la députée de la France Insoumise qui sur ce débat a une position quand même très radical.
Oui, en effet, nul doute qu'on parlera aussi plus tard encore dans une autre émission de Greta Thunberg, en tout cas de sa personnalité. Nous devons avancer. Nous allons en parler d'un autre sujet, le parquet de Bruxelles qui donne une conférence de presse suite au mandat d'arrêt dressé à l'encontre d'un policier dans l'affaire du petit Fabien. C'est la prochaine séquence. La justice va continuer à faire son travail en toute indépendance et sans aucune pression. Ce qui frappe ici, c'est la disproportion. La famille du petit Fabien de la vie doit être soutenue. Ce sont les déclarations de Julien Moynier, le procureur du roi de Bruxelles, des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée en fin de matinée. Ce matin, nous avons appris qu'un policier a été inculpé pour entrave méchante à la circulation ayant causé la mort. Il a été placé sous surveillance électronique. Nicolas Decker, ce drame, la mort d'un enfant de 11 ans heurté par une voiture de police alors qu'il circulait en trottinette. Ce drame est-il en train de devenir une affaire politique aussi?
Mais on se pose la question, depuis que ce drame s'est produit, Maxime, y compris ici, ce qu'on peut dire ici, à la vue de cette conférence de presse à laquelle je ne suis pas allé, mais dont j'ai lu quelques recensions, c'est que on est quand même dans une situation de com', une situation médiatique où cette affaire dure. C'est pas simplement le fait divers, ça se passe, c'est tragique, c'est terminé, et puis trois jours plus tard, on oublie. Le fait que le parquet ait fait une conférence de presse implique que ça a des conséquences plus médiatiques, en tout cas pour le moment, que politiques. Et les éléments que le procureur a soulignés, et puis je parlerai ici, rappelez-le-moi, du procureur lui-même, parce que Greta Thunberg, mais je pense qu'il excelle aussi en communication, sans doute plus d'ailleurs que Greta Thunberg, il ouvre des questions qui sont des prochains épisodes du feuilleton. Hein. Il a lancé la question des trottinettes. Hein, il y aurait des boutiques à Bruxelles qui vendent des trottinettes frelatées, avec des trottinettes truquées, et peut-être que une de ces trottinettes a été celle sur laquelle se trouvait ce petit enfant au moment où il était renversé. Et donc, politiquement, je ne sais pas, Maxime, mais médiatiquement, dans le récit, dans la conversation publique, cette affaire n'est pas un simple fait divers, c'est sûr.
Je vous propose d'ailleurs, avant de continuer ce débat, de regarder un extrait de cette conférence de presse donnée par le procureur du roi de Bruxelles, Julien Moinet.
Il semble que le feu bleu, donc feu qui se situe sur la voiture, n'ait pas été activé. Il faut savoir que l'expert automobile qui a été désigné a la possibilité d'analyser au sein du véhicule ces éléments-là. Et donc, il semble que le feu bleu n'ait pas été activé. Ce que confortent d'ailleurs les témoignages qui ont été recueillis. Donc pas de feu bleu. Il semble également que le véhicule n'ait pas activé, la sirène du véhicule n'ait pas été activée. Ce que confirment également certains témoignages et l'expert. Au niveau de la vitesse, l'expert a également conclu à une vitesse, donc provisoirement à une vitesse de plus de 40 km/h. Nous sommes, pour rappel, dans un parc où circulent des piétons et qui n'est pas accessible à des véhicules.
C'est rarissime que le parquet de Bruxelles, qu'un parquet en Belgique, fasse une telle conférence de presse, même si ça arrive de temps à autre. Dorian Demeus, voilà, on sent bien que l'affaire est particulière. Il y a une tension, une attention ici médiatique, et que les autorités judiciaires et politiques essayent de communiquer, mais avec parcimonie tout de même.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, un enfant qui meurt, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions, c'est jamais un fait divers. Et en plus, quand la police est directement impliquée, ça ne peut pas être un fait divers. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce que maintenant, je vais essayer de compléter ce qu'a dit Nicolas, pourquoi est-ce que maintenant on parle de quelque chose qui s'étale? Tout simplement parce que la presse en particulier, mais c'est la même chose pour la justice, ne peut pas s'indigner, hurler avec les loups au moment où il y a un enfant qu'on retrouve mort devant une voiture de police. Il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Et donc, même si on a plein d'idées en tête, même si on a envie de s'indigner, d'hurler, on doit attendre. C'est notre rôle de journaliste, d'attendre d'avoir des éléments concrets pour pouvoir s'indigner, dénoncer et appeler à des changements, que ce soit en termes de formation, en termes d'encadrement ou en termes de justice et de condamnation. On doit attendre ces éléments-là, parce que tant qu'on ne les a pas, on crie sur des éléments qu'on n'a pas pu vérifier, qu'on n'a pas pu recouper.
Mais là, il y a quand même un mandat d'arrêt qui a été dressé.
Juste, mais c'est arrivé aujourd'hui.
Oui, mais c'est rarissime aussi.
Oui, c'est rarissime. C'est sans doute un autre drame dans le drame. Hein. Mmh. Un jeune de 26 ans qui va se retrouver peut-être des années en prison. Il reste jusqu'à 30 ans de prison. Sans doute qu'il a été mal formé. Sans doute qu'il a été aussi impulsif que ce petit enfant qui a peut-être été impulsif dans sa façon de partir. Mais un gamin de 11 ans, ça reste un gamin de 11 ans. Enfin, moi, j'ai des enfants de cet âge-là. On sait jamais. On a beau les éduquer le mieux possible, on sait jamais comment ils peuvent réagir face à un danger, face à une impulsion personnelle et autre. Et donc, la police doit être prête à ce genre de choses. Et là, on sent bien que il n'y a pas eu cette proportionnalité qui est nécessaire quand on veut faire appliquer la loi, l'ordre ou la protection d'un enfant ici.
La vraie question est de savoir, Dimitrios Kagiola, si on peut, en tout cas, en tirer une généralité de cette affaire, de ce décès, suite à un accident avec une voiture de police. Est-ce qu'on peut en tirer une généralité?
Une généralité, certainement.
Dans la formation.
Pas, mais des conclusions, sans doute. Voilà, je ne connais pas le cursus de cet agent, je ne sais pas quelle formation il a subi, mais il y a un problème, il y a concrètement un problème. Hein, aller commencer à rouler à plus de 40 à l'heure dans un parc pour poursuivre un enfant de 11 ans, ça se voit que c'est un enfant de 11 ans sur une trottinette, il y a un problème, sans feu bleu, sans gyrophare, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas le message qui est envoyé, arrêtez-vous, il n'y a rien. Donc on voit que là, il y a toute une série de manquements, et je partage ce que vient de dire Doran, moi aussi j'ai un enfant de cet âge, c'est tragique. Je veux dire, ça dépasse le fait divers, ça devient un fait de société qui doit nous obliger à s'arrêter, à réfléchir. Je souligne quand même qu'il y a malgré tout une gestion de cette crise que je trouve correcte, tout à fait correcte. Il y a eu assez peu de récupération politique, il y en a eu un peu, au début, pour faire un peu de bashing anti-policier, mais je trouve que ça a été très correct, d'une manière générale. Et moi, je souligne effectivement la communication du procureur. C'est vrai qu'il excelle, qu'on le voit beaucoup. J'ai apprécié sa netteté dans les faits qui sont reprochés aux policiers. J'ai aussi apprécié la nuance qu'il a dit « Attention, on ne va pas faire de généralisation sur les violences policières, c'est un cas isolé ». Voilà, je ne dis pas qu'il allait appeler à faire du policier bashing, mais en tout cas, le fait de préciser que la plupart, la grande majorité des policiers font bien leur boulot et qu'ici, on a affaire effectivement à un drame dont on doit encore connaître pas mal de choses, je trouve, moi je salue ça. C'est-à-dire, c'est la gestion de la communication des parquets est un peu souvent archaïque et maladroite. Je trouve que celle-ci est parfaite.
Julien Moynier, nouveau procureur du roi de Bruxelles, il a fallu du temps pour que le politique nomme un successeur, en tout cas un nouveau procureur à Bruxelles. Je vais vous lire une de ses citations qu'il a eues durant cette conférence de presse. Je voudrais apporter mon soutien à la police. Ce drame ne doit pas être le procès de la police dans sa globalité, dit-il. Ces hommes et ces femmes nous protègent et prennent des risques pour notre propre sécurité. Ils ont des familles et des enfants. La police doit rester soutenue dans son travail. La justice doit sanctionner les dérives, a-t-il affirmé. Nicolas Decker, voilà, que pensez-vous de la communication du nouveau procureur du roi de Bruxelles, alors, Julien Moynier?
Je suis assez surpris de la façon dont Demetrio se réjouit de la façon dont s'exprime le procureur du roi, sachant que c'est son métier.
J'ai assisté à pas mal de conférences de presse de procureurs où c'était spécial langue de bois.
Mais évidemment, mais le fait qu'ils disent il faut pas généraliser la police, mais enfin son métier c'est quand même de travailler avec la police. Il va pas dire ce sont tous des vendus, des
peut-être qu'il a utilisé les bons mots, les bonnes expressions.
C'est vraiment un excellent communicant. Moi, je suis pas criminologue, je suis pas journaliste en jeu en fait divers ni quoi que ce soit, mais je peux dire que dans le récit médiatique, il a tout de suite trouvé sa place. Il a tout de suite trouver son rôle, il a tout de suite trouvé un message. Et donc, en effet, à cet égard-là, c'est quelqu'un qui fait excellemment cette partie-là du travail. C'est un peu du corporatisme, pardon, Demetrio, mais de dire il ne faut pas généraliser et dire du mal de la police. Mais évidemment qu'un procureur du roi va dire ça dans un contexte tel que celui-là. Il ne va pas se livrer, comme à l'expression que tu reprends, du police bashing. C'est comme si, je ne sais pas, Dorian commençait à traiter tous les journalistes d'incompétents, de paresseux, j'en sais rien. Enfin, je veux dire,
c'est gens, de ne pas snacker ce passage.
Avec qui il travaille. Et donc, c'est vraiment, là, il est vraiment strictement dans son rôle qu'il joue très bien.
D'accord, donc vous pensez qu'il joue son rôle très bien, en tout cas que cette communication, cette conférence de presse a été menée avec brio, mais tout de même, on parle du décès d'un petit enfant de 11 ans, de Fabienne, ça s'est passé il y a un peu plus de 7 jours maintenant. Que pensez-vous aussi de la réaction des autorités du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur Bernard Quintin? Est-ce que finalement... on l'a vu assez dans les médias et s'est-il assez exprimé auprès des députés?
C'est la même
Nicolas
chose aussi. Évidemment, il a dénoncé les tentations de police bashing et donc il a bâché les bâcheurs de police, les éventuels. Et c'est son rôle aussi. C'est son rôle d'abord ministre de l'Intérieur, puisque ce sont les personnes dont il est formellement le patron. Et puis, politiquement, il a intérêt à dire que c'est à cause de la gauche méchante qui n'aime pas les policiers s'il y a des problèmes.
Oui, mais justement, on n'a pas eu ça. Non. Là, je suis totalement d'accord avec Demetrio.
Il y a eu des bâcheurs de bâcheurs, quand même, beaucoup.
On a eu des dérives dès le premier jour, sur les réseaux sociaux principalement, des personnes qui dénonçaient l'éducation des parents, le rôle des parents, et on a oublié. Je pense qu'un enfant de 12 ans, 11 ans, même, on ne parle pas à ce moment-là de l'éducation des parents. Même si ça peut jouer un rôle, ça peut évidemment. Mais l'enjeu n'est évidemment pas là. L'enjeu, il est pourquoi est-ce qu'un flic, désolé d'utiliser ce terme-là, roule après un jeune qui n'a rien fait d'autre que de fuir une voiture de police qui, justement, n'avait pas de feu ni de sirène. Donc, je trouve que ça, c'est assez digne. Et on aurait pu imaginer plus de dérapages à ce niveau-là.
Et que pensez-vous aussi de la non-présence? On le voit très peu, Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, pour l'instant, les médias.
Moi, je pense qu'il réagit un peu comme nous, journalistes. Nous, on va faire un édito dans la Libre demain sur le sujet. On n'en a pas fait depuis, parce qu'on n'a pas voulu dénoncer ou s'indigner ouvertement sur quelque chose dont on n'avait pas les premiers éléments. Maintenant, on n'a pas tout. On ne va pas non plus attendre la fin d'un procès pour dire ce qu'il faut penser.
Il y a le comité P qui a toujours lancé son enquête.
On peut en tirer des conclusions déjà maintenant.
La présomption d'innocence, oui, bien sûr. Dimitrios Kagiola, sur la présence dans les médias ou non, dans la communication des membres du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a les mots justes? Est-ce qu'il est assez présent? Ou alors, il a raison d'être quelque peu en retrait comme il le fait pour l'instant?
Je pense que c'est maintenant que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Donc la communication jusqu'à présent, elle a été assez simple, elle a été assez discrète et je m'en réjouis. Bon, maintenant, on va voir ce que vont donner les enquêtes du comité P, on va voir la suite de l'enquête. Voilà, ici, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, s'il est un bon ministre de l'Intérieur, ce dont je ne doute pas, eh bien, il va tirer profit de ce drame, peut-être, pour refaire de la formation, pour envoyer un message aux policiers. Je pense que le ministre de l'Intérieur, c'est pas juste le patron des flics, c'est un peu quelqu'un qui veille sur la sécurité de chacun d'entre nous. Et donc, à cet égard, je pense qu'il n'est pas juste le super flic, il est monsieur sécurité des policiers, mais aussi des Belges.
Une des difficultés qu'il va avoir, c'est qu'il semble que les témoignages de la police, des policiers qui étaient là, ne correspondent pas aux témoignages des gens qui ont vu la scène. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de sirène et pas de feu, n'était pas du tout dans les témoignages de la police à ce moment-là. Donc il va falloir recouper tout ça et comprendre est-ce qu'il y a eu une volonté de couvrir un collègue policier par rapport à un dérapage très important de sa part. Donc ça va être quelque chose qui va pouvoir mettre en difficulté la police. Donc il faut vraiment que l'enquête puisse avancer à ce niveau-là.
Juste après la pause, nous débattrons d'un autre thème, à savoir le dossier du jour de la Libre Belgique sur la confrérie des frères musulmans entre relativisme et inquiétude excessive. Quel est l'impact de cette confrérie? Nous tenterons de répondre à cette question juste après la pause. À tout de suite.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos.
Vacances, nos Volkswagen Audi, Seat, Cupra, Skoda sont toutes de stock et prêtes pour l'été. Du confort pour toute la famille sans attendre. Rendez-vous chez Percy Motors à Wavre, Genneval, Pérouet et Jean Blou.
Percy Motors, le service d'un bord.
Conditions en concession.
Bonsoir le club, Maxime Binet.
Très Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du club. Nous sommes toujours avec notre trio de chroniqueurs, à savoir Dorian Demeus, Demetrios Cagiola et Nicolas Dedecker. C'est notre dernier thème dans le club, l'entrisme des frères musulmans, la Libre Belgique qui consacre plusieurs années. Ce matin, on y apprend que cette confrérie est moins influente que par le passé, alors entre relativisme et inquiétude excessive, et nous allons nous poser une simple question: que sont les frères musulmans? Et on va débuter avec Dorian Demeus. On a beaucoup parlé de cette confrérie depuis la publication d'un rapport français ayant identifié 200 frères musulmans en Belgique. Et c'est quand même assez approximatif lorsqu'on sait que la sûreté de l'État elle-même en a pointé une centaine. Est-ce que ce rapport est vraiment fiable en France ou pas?
La sûreté de l'État a déjà souligné plusieurs fois le risque, d'entrisme musulman en particulier. Donc c'est quelque chose qui revient depuis des années. Moi, depuis la Libre Belgique, j'entends chaque année parler de cet enjeu au niveau de la sûreté de l'État. Ici, l'idée n'est pas de relativiser d'un côté ou d'inquiéter de l'autre. C'était plutôt de faire un peu un horizon clair de qu'est-ce que le frère musulman et qu'est-ce que les frères musulmans peuvent représenter chez nous, que ce soit à travers des associations, des mosquées, des personnalités politiques. Et s'ils ne sont pas directement frères musulmans, on se souvient ici, il y a un débat la semaine dernière avec Fouad Haïdar qui démentait être frère musulman, mais qui disait, je ne sais même pas ce que c'est. En fait, c'était le même cas dans d'autres dossiers où quand c'était un peu compliqué pour lui, il préfère dire qu'il ne connaît pas. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, dans sa politique et dans son programme, et surtout dans sa manière de faire de campagne, il se rapproche de la matrice, si vous voulez, des frères musulmans, sans pour autant l'être.
D'accord. Justement, je propose d'écouter un extrait de Fouad Haïdar, qui était l'invité de Bonsoir le Club, grand entretien du jeudi. Regardez.
Je suis musulman, j'ai des frères, mais je ne suis pas frère musulman. Donc je ne sais même pas à quel devant je faut écouter. J'ai lu une partie de ce rapport parce qu'on me l'a envoyé, je regardais un petit peu au niveau de là-bas. Franchement, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je suis un citoyen bruxellois, un citoyen belge, et qui travaille sur les thèmes que les Belges et les Bruxellois veulent. Je suis un parti inclusif. Je travaille pour toutes les communautés, quel que soit leur genre, quelles que soient leurs orientations, quelle que soit leur position. Ce que je veux, c'est le bien-être des Bruxellois. Je veux que les gens soient heureux ici à Bruxelles.
Et vous reconnaissez qu'il y a cet entrisme musulman?
Et donc, je ne suis pas un frère musulman.
Non, mais vous reconnaissez que ça existe, les frères musulmans à Bruxelles, et qu'ils essayent de peser?
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord définir les choses. Et soit on a un service de la sûreté de l'État qui ne fait pas son boulot, parce que je pense qu'on a plus de centaines de personnes qui travaillent à la sûreté de l'État, ça a eu de déterminer qui est frère musulman, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas. Être musulman, ce n'est pas être un danger.
Nicolas Dedecker, la difficulté aussi, c'est qu'on ne sait pas qui est frère musulman ou pas. C'est une société, une confrérie assez secrète aussi.
Mais alors, oui, et c'est le problème, et c'est aussi la façon dont nous traitons ce problème, qui me semble être aussi un problème. Je m'explique. Quand Dorian dit, Fouad Haïdar partage la matrice idéologique des frères musulmans, en fait, peut-être, sans doute, que sait-on quand on lit l'excellent dossier de Bosco Dotreb dans la Libre d'aujourd'hui, ou même le rapport qu'avait commandé Gérald Darmanin à des fonctionnaires qui l'ont rendu à Bruno Retailleau. Donc c'était très politisé comme rapport.
Qui a été très
extrêmement politisé. Et qui était beaucoup moins bon que le dossier de Bosco, d'ailleurs, ce rapport, ce soit dit en passant. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'est la matrice des frères musulmans? Alors, on entend, attention, ils veulent conquérir le monde, instaurer la charia, obliger tout le monde...
Non, c'est pas ça qui est dans le dossier.
Votre dossier de la Libre, dans le rapport commandé par Darmanin et livré à Retailleau, c'est pas la même chose. C'est, voilà, on parle de rien moins que des gens qui veulent conquérir le monde, instaurer un califat mondial. D'accord, c'est très grave, c'est très dangereux, un califat mondial, je suis radicalement contre.
Mais c'est pas ce qu'il y a écrit dans le dossier de la Libre.
Mais qu'est-ce qu'on lit de cette matrice, de ce qu'on voit, de ce que serait le frérisme? C'est... il faut que les femmes voilées aient le droit de travailler avec leur voile, ou d'aller faire du sport avec leur voile, ou d'aller faire des études avec leur voile. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ces revendications-là. Qu'ont-elles de subversif? Qu'ont-elles de dangereux? Qu'ont-elles d'antidémocratique? Et, pour poursuivre, dans quelle mesure une femme qui travaille, fait des études, va à la piscine, va au magasin ou j'en sais rien avec son voile, dans quelle mesure est-elle un danger pour la démocratie? Et c'est ça qui rend en fait ce débat insoluble.
Alors, pour en revenir aux frères musulmans, alors moi je ne suis pas le juge qui va dire que le rapport de Retailleau est meilleur que celui de la Libre. Ce sont des rapports, ce sont des pièces au dossier qu'il faut lire, les deux sont complémentaires d'une certaine manière. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Dans les frères musulmans, ce n'est pas le nombre de frères ou d'affiliés qui compte. C'est le relais, c'est leur influence sur le cours des choses. Parce qu'effectivement, les frères musulmans ne veulent pas faire Daesh. ce ne sont pas des, ni des salafites, ni des wahhabites.
Ils veulent pas
Ils veulent conquérir les esprits, nos cultures, nos manières d'être, entrer dans nos institutions pour ouvrir à des accommodements raisonnables sur le voile, sur l'abattage rituel. C'est là.
J'adore, je t'interromps. C'est là. Parce que le voile. Enfin, les signes convictionnels sont autorisés en fonction publique en Belgique depuis longtemps, et l'abattage rituel a toujours été autorisé en Belgique.
Mais on sait très bien, Nicolas, vous le savez aussi bien que moi, que l'abattage rituel n'a pas, ça a divisé la classe politique belge entre Bruxelles et les autres. Donc des partis qui en Wallonie ont voté contre, ont voté pour à Bruxelles. Donc on sent bien que là, ce n'est pas que le PS de Bruxelles. Ce n'est pas que le PS de Bruxelles est totalement différent. C'est qu'il y a sans doute un terreau, une population, une communauté qui fait qu'à Bruxelles, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir l'influence des frères musulmans et pas de les présenter comme les Templiers des temps modernes qui se réunissent dans des caves noires. Voilà, c'est pas
on
du tout ça.
On parle plutôt de tissu associatif, voilà. D'ailleurs.
De réseau.
Je
de
prends
réseau.
Deux exemples pour réagir un tout petit peu à ce que vient de dire Nicolas. Il y a deux dossiers qui m'ont un peu gêné dans cette interview qu'on a faite avec Fodaïda. C'est les VRAS. Les VRAS, donc les cours à sexualité. Moi, je suis pour des cours à sexualité. Je dis pas qu'il en faut beaucoup, je dis pas qu'il faut aller très loin, mais c'est nécessaire tant en primaire qu'en secondaire pour plein de raisons et notamment pour toucher des enfants qui sont totalement exclus de la question de la sexualité dans leur milieu familial, qu'ils soient catholiques ou musulmans, hein, qu'on soit bien clair. Et donc je trouve que c'est important. Or là, il nous dit oui, non, mais je connais pas les VRAS et ça va pas, donc voyons voir. L'autre point, non, mais c'est parce que vous parlez des femmes avec les voiles, et ça c'est l'autre point. Quand on lui parle du voile, il dit oui, à partir de 16 ans, ça va être possible. Et quand je lui demande ce qu'il dit à un père de famille qui lui demande si sa fille de 6 ans peut avoir le voile ou pas, il dit oh, écoutez, si les gens veulent pouvoir mettre le voile, ils doivent pouvoir le faire. Donc il ne dit pas qu'il est contre. Et 6 ans, 7 ans, c'est pour moi un vrai problème par rapport à la neutralité aujourd'hui.
Mais en quoi est-ce que ça fait d'un conservateur un frère musulman, donc quelqu'un qui comploterait pour instaurer la charia? Mais je veux dire, c'est tout à fait répugnant d'être opposé à l'Evras, mais malheureusement, ce sont des positions qui sont existantes et admissibles. Et en quoi le fait de les défendre serait antidémocratique? C'est ça ma question. En quoi le fait d'être pour l'abattage rituel, je déteste l'abattage rituel, à titre personnel, mais en quoi être contre est contre la démocratie? En quoi porter un voile est être contre la démocratie? Et c'est ça le problème de ce débat-là qui fait, en fait, c'est un cercle vicieux.
Le problème n'est pas tant d'être pour ou d'être contre. Le problème, c'est la manière dont on réseau, dont on infiltre des institutions, des structures et des partis.
Tu veux dire que toutes les personnes musulmanes qui veulent manger halal, ce sont des jouets des frères musulmans?
Je n'ai pas dit ça. Je dis comment des frères musulmans et des gens qui leur sont proches travaillent le réseau, les institutions, les partis politiques pour, effectivement, ouvrir de plus en plus la pratique religieuse là où elle n'était pas admise en Belgique, y compris...
Mais l'abattage rituel était déjà admis.
Mais par exemple, le sport convictionnel dans les écoles, pour les professeurs,
c'est genre la moitié des écoles sont religieuses.
Dans la fonction publique.
Démétrio, en Belgique, on a donné à des religions...
Mais les pouvoirs...
C'est
extraordinaire. Là, on fait de l'enfumage pour ne pas parler du vrai. On va parler des écoles catholiques. Il est évident que ces gens, frères musulmans ou pas, qui veulent effectivement qu'il y ait une plus grande tolérance, un peu sur le modèle britannique par exemple, hein, qui est beaucoup plus communautariste, eh bien ces gens militent, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, ça existe, et on veut faire reculer ce que chez nous on appelle la neutralité, et ce qu'en France on appelle la laïcité. Voilà.
Dorian Demius, aussi une autre question pour conclure ce débat. Voilà, vous avez fait un ciblage sur la confrérie des frères musulmans, mais quid des autres groupes de pression, par exemple religieux, des chrétiens conservateurs, des catholiques conservateurs, des laïcs, des protestants? Est-ce que là aussi il y a un tissu qui fait pression pour faire changer des choses dans la société?
On l'a fait dans d'autres conditions, on fait des papiers assez régulièrement, hein, comme le VIF aussi, sur les francs-maçons, on l'a fait sur les VRAS, on a
fait ça régulièrement, une fois par an.
Ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait ça, des médecins.
La Libre, on le fait aussi. Ici, il y a une question qui nous vient un peu dans l'actualité, et donc on se pose la question. Le fait qu'il ait répondu assez sincèrement ici, sur votre plateau, c'est aussi l'occasion de revenir sur le sujet. C'est surtout ça l'idée, en fait.
Eh bien voilà, merci en tout cas pour ce débat. Merci Dorian Demius, merci Dimitri Gasquet. Tagliola. Merci à Nicolas Decker d'être passé par le club. On va tout de suite prendre la direction du Prime. Retrouver Nicolas Pipard. Bonsoir Nico, qu'est-ce que vous nous avez prévu ce soir?
Salut Max, bonsoir à toutes et à tous. Retour d'abord sur cette question. Faut-il interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? C'est en tout cas la volonté de notre ministre des Médias, mais également d'Emmanuel Macron en France. Mais est-ce réalisable et surtout, est-ce la bonne solution? On en parle avec nos invités dans un instant. On reçoit aussi ce soir Maëlle Riad pour un roman graphique bouleversant qui raconte l'histoire vraie de sa propre mère, l'une des premières contaminées par le VIH. Et puis vers 21h30, l'humoriste belge Fabio Alibrio viendra nous parler de son spectacle à l'italienne prévu le 18 septembre au Cirque Royal de Bruxelles. Bonsoir le Prime, ça commence dans un instant. A tout de suite.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
Avec sa finition high-tech, faut vous demander...
Attends, c'est une Kia Sportage, ça?
Stylée à l'extérieur, élégante à l'intérieur.
Ah, donc ça, c'est vraiment la Kia Sportage?
Oui.
Bah non.
Et jusqu'à fin juin, vous bénéficiez d'un avantage de 6000 euros sur les modèles de stock.
6000 euros?
C'est ça. Alors foncez chez votre concessionnaire Kia avant qu'il ne soit trop tard.
Kia, movement that inspires.
Découvrez aussi tous les autres Kia Summer Stock Deals, avec entre autres, jusqu'à 5000 euros d'avantage sur la Kia Ceed. Conditions sur kia.be.
Rien qu'à nous, on a tout. just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head.
Choisis LN Radio, la meilleure sélection musicale des années 80 à aujourd'hui.
Just watch. Don't believe me, just watch. something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it.